Après cela, c'est la dernière page de l'Évangile selon saint Jean, qui est de l'avis de tous les exégètes, le tout dernier livre, la toute dernière page du Nouveau Testament, puisque ça a été écrit après la conclusion de l'Évangile selon saint Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Il y a une première conclusion, une postface qui a été mise après la mort de saint Jean. Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il se manifesta ainsi. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée, Jacques et Jean, et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Il sait déjà que le Christ est ressuscité, mais il n'a pas réalisé qu'il devait annoncer la nouvelle à travers le monde. Le vent de la Pentecôte n'a pas encore soufflé. Il retourne à son ancien métier. On pense même qu'il avait épousé la fille du plus grand armateur de Capharnaüm, la fameuse belle-mère, dont parle l'Évangile, la belle-mère de Pierre. Saint-Pierre, devait être un gros pêcheur de pêche, un gros pêcheur de poissons sur le bord du lac. Donc, il retourne à son ancien métier. On y va avec toi. C'est pas parce que c'est le pape, mais c'est un leader. Jésus a choisi la forte tête de l'équipe pour être le chef. On y va avec toi. Ils sortirent, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Encore aujourd'hui, le lac de Tibériade est très poissonneux, mais on tombe ou non sur un banc de poissons. Donc, ils reviennent bredouilles. Or, le matin déjà venu, Jésus se tint sur le rivage. Il voit une forme sur le bord du lac, et il s'imagine que c'est un amateur de poissons qui vient chercher du poisson frais et pas cher dans tous les ports du monde. Vous avez toujours des gens qui viennent comme ça au petit matin voir s'il n'y a pas du poisson à acheter. Jésus se tint sur le rivage, pourtant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Les enfants, vous n'avez pas de poisson !» Il n'y avait pas de micro sur le bord du lac, je vous signale. « Non !» Il voudrait bien répondre, mais il n'y a rien dans la barque. « Jetez le filet à droite, vous trouverez !» Oh, ce n'est pas un amateur de poisson, peut-être que c'est un pêcheur qui nous donne un bon tuyau, on ne sait jamais. On y va, qui dit Saint-Pierre aux autres. On y va. Et on repart. On repart mener le bateau en plein lac pour essayer de trouver du poisson. Ils le jetèrent donc. Et ils n'avaient plus la force de le tirer tant il était plein de poissons. J'imagine mon saint patron Saint-Pierre tout heureux. Oh, mais le gars, il nous a donné une bonne idée. Allez, on y va. Oh, oui, c'est le poisson qui arrive tout frétillant dans la barre. Oh, quelle bonne idée il a eue. Et Saint-Pierre, il ne pense pas une seule seconde que ça pouvait être Jésus. Tout occupé à sa manœuvre. Mais Saint-Jean, beaucoup plus fut, ça lui rappelle tellement la première pêche miraculeuse qu'il a décidé à suivre Jésus, qui s'approche de Pierre et dit, « Eh, dis donc, c'est le Seigneur, ça !» Alors, pour comprendre la suite du texte, il faut comprendre qu'à l'époque, mesdames, j'espère que vous ne serez pas scandalisés, quand les hommes pêchaient le poisson, ils étaient tout nus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de slip de bain, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ciré non plus maintenant, bien imperméable, pour mettre sur le dos des pêcheurs. Quand on était entre hommes, on enlevait tout pour avoir quelque chose de sec à se mettre à l'arrivée. Donc Saint-Pierre, dit le texte, il était gymnos, tout nu. Le mot qui a donné gymnastique, puisque jadis la gymnastique aussi, ça se faisait tout nu en Grèce. C'est ça qui a donné le nom gymnastique. Alors mon Saint-Pierre, il est en tenue d'Adam, ou en tenue de Saint-Pierre, si vous préférez, bon. Je ne peux pas aller comme ça devant Jésus. Suite du texte. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, c'est le Seigneur. À ces mots, c'est le Seigneur, Simon-Pierre mit son vêtement, car il était tout nu. Alors, en lecture liturgique, on dit, il n'avait rien sur le dos. il faut bien traduire pour ne pas trop scandaliser les braves gens qui sont là. Bon, Simon-Pierre mit son vêtement, car il était tout nu, et il se jeta à l'eau. Il n'a certainement pas nagé le crawl qui n'existait pas à l'époque. Alors je fais appel aux spécialistes de la nage. La nage indienne, je crois que ça existait déjà à l'époque. La brasse, je suis pas. Toujours est-il qu'il a nagé pour rejoindre Jésus sur le bord. Et nous, quand on... Oui, alors, quand on jette à l'eau, nous, on a plutôt tendance à enlever quelque chose. J'ai oublié de dire que Saint-Pierre, il s'est mis quelque chose autour de la taille pour ne pas aller comme ça tout nu devant Jésus. Il se jeta, à ces mots. Simon-Pierre mit son vêtement, mit quelque chose autour de lui, car il était nu, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples qui n'étaient pas loin de la terre, mais environ 200 coudées, vinrent avec la barque traînant le filet de poisson. Et qu'est-ce qu'il voit arriver à terre? Il voit Jésus en train de préparer le petit déjeuner de ses apôtres. Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont faim. Et il leur dit, allez me chercher les poissons que vous avez pris. Car il sait que pour des pêcheurs, le poisson qu'on a pris soi-même est tellement plus délicieux que les autres. Saint-Pierre, toujours lui, se précipite dans le bateau et il tire à terre le filet plein de gros poissons, 153. Et malgré leur nombre, le filet ne se déchira pas. Le petit détail du pêcheur qui n'a pas été obligé de ravauder ses filets. Jésus leur dit, venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient, il prend le pain et il le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Et après le repas, c'est le fameux dialogue qui fait notre admiration. Jésus qui demande à Simon, « Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres ?» Il y a 15 jours, il aurait répondu sans hésiter, « Bien sûr, Seigneur, quand bien même les autres te renieraient, moi, jamais. » Il a compris qu'il valait mieux ne pas se comparer aux autres. Il se contente de répondre, « Seigneur, je t'aime. Eh bien, tu seras le pasteur de mes brebis. » Et puis 10 minutes après, peut-être, Simon, fils de Jonas, est-ce vrai que tu m'aimes? Ben oui, Jésus. Eh bien, tu seras le pasteur de mes brebis. Et puis peut-être un quart d'heure plus tard, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu vraiment? Et Pierre fut peiné de ce que Jésus lui demande pour la troisième fois, m'aimes-tu vraiment? Ça lui rappelait tellement le troisième reniement. Alors, n'y pouvant plus, il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus confirme Saint-Pierre dans sa charge de chef de la petite équipe apostolique. Et après, Jésus lui dit, « Oh, quand tu étais jeune, Simon, tu mettais ton vêtement comme tu le voulais, comme tu l'as fait tout à l'heure pour te mettre à l'eau. Quand tu seras vieux, c'est un autre qui te mettra la ceinture autour de la taille et qui te mènera là où tu ne voudrais pas. » Et Jésus signifiait ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu, puisque nous savons que Saint-Pierre est mort au Vatican, dans la persécution de Néron, et on sait même maintenant que tout un petit cimetière chrétien a été construit sous la coupole actuelle de Saint-Pierre, autour de cette tombe de Saint-Pierre. Vous savez que les archéologues sont sûrs d'avoir retrouvé le premier cimetière chrétien qui s'est déroulé à Rome, autour de la tombe de Saint-Pierre. Quand ce texte est écrit, Saint-Pierre est mort et enterré depuis des années. Et on ose le représenter tout nu, allant à la recherche, à la rencontre de Jésus sur le bord du lac. Je ne dis pas que je crois à la résurrection du Christ à cause de cela. Mais voyez, je souhaiterais qu'un jour, vous vous mettiez à étudier l'Évangile comme ça, comme un document historique, et voir si ça tient la route du point de vue historique. Alors, pour votre méditation personnelle, je vous invite à revenir sur ce texte que nous venons de lire, et qui peut facilement animer votre prière d'ici tout à l'heure. À savoir que Jésus demande à chacun d'entre vous, m'aimes-tu? C'est le cri d'un amoureux. Ce n'est pas un simple examen que Jésus fait passer à son premier pape. Tu m'aimes, bon, mais tu seras pape. Non, Simon, dis-moi que tu m'aimes. Tâchez de comprendre, mes chers amis, que Dieu, que Jésus vous aime tellement qu'il réclame votre pauvre amour de pauvre créature. Il veut que vous l'aimiez. Vous pensez à lui dire, Seigneur, aime-moi, et ça lui fait plaisir. Mais lui, il ne cesse de vous dire, comme à Saint-Pierre ce jour-là, dis-moi que tu m'aimes. J'ai été très frappé par la réflexion qu'a faite dans cette pièce un régional des équipes Notre-Dame, qui habite Cambrai, je peux le dire en public, puisque ça s'est passé en public, qui après une semaine de prière a dit devant tout le monde, je ne sais pas ce qui m'arrive pendant cette semaine, mais je me mets à parler comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, alors que je n'avais pratiquement pas parlé de Sainte Thérèse pendant toute la semaine. Et il a dit ça, les larmes dans les yeux, je me mets à dire à Jésus, Jésus mon bien-aimé, 90 kilos, organisant sa paroisse, directeur d'agence publicitaire, vraiment rigolé, l'homme bien dans sa peau. Il découvre à plus de 50 ans que Jésus demande à être aimé. Jésus, mon bien-aimé. Et du coup, tous les jours, maintenant, il quitte son entreprise de publicité et il va à la messe à la cathédrale de Cambrai à 6h30 du soir. Il a découvert cette relation nuptiale qui existe entre lui et Jésus. Que Jésus réclame son amour. Je vais à la messe pour lui faire plaisir. pour l'aimer. Je souhaiterais que vous découvriez ça un jour dans votre vie, avant 97 ans. Hein? Spécialement les messieurs. Les messieurs ont l'impression que ça, c'est bon pour les femmes et les gosses. Ça. Aimer Jésus. Dis Jésus, je t'aime bien. Hey, on a l'impression que ça, c'est un langage de bébé. Mais cet homme, qui n'a jamais remis sa foi en question, qui est allé à la messe tous les dimanches, je pense, dans sa vie, mais qui découvre à plus de 50 ans, à l'occasion d'une semaine de prière, qu'il a le droit d'aimer Jésus, que Jésus réclame son amour, que ça fait plaisir à Jésus qu'il aille à la messe. Jésus, mon bien-aimé. Oui, Seigneur, fais-nous comprendre qu'il y a plusieurs façons de lire l'Évangile et qu'elles sont toutes bonnes. Je peux y voir une histoire vraie qui s'est passée sous Ponce Pilate. Et cette considération historique est nécessaire pour la solidité de ma foi, mais je peux y voir aussi l'annonce de ce que tu me dis aujourd'hui, en ce troisième millénaire. M'aimes-tu ? Dis-moi que tu m'aimes. C'est aussi ce que Jésus ne cesse de dire au petit Van, au petit Vietnamien Marcel Van, pendant son année de noviciat. Marcel, dis-moi que tu m'aimes.